Laudetur Jesus Christus.
En cet avant-dernier jour de l'année, l'heure est au bilan. Nous irons en France et aussi aux États-Unis où cette année 2024 a été particulièrement riche en péripéties politiques entre crise de régime et nouvelle élection présidentielle. À la une de ce journal également, les hommages qui se poursuivent après la mort du président Jimmy Carter à 100 ans hier. Nous entendrons également l'évêque de Tallinn en Estonie, Mgr Jourdan, qui accueille les jeunes de la communauté de Thésée. Et puis nous ferons le point aussi sur les missionnaires morts en cette année 2024. Les chiffres de l'agence Fides ont été publiés ce lundi.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, en ce 30 décembre, retour un peu sur l'année politique en France où cette année 2024 aura été marquée par une crise politique et institutionnelle sans précédent qui a vu défiler dissolution de l'Assemblée nationale, élections législatives anticipées, pas moins de 4 premiers ministres et la première censure d'un gouvernement depuis 1962, des turbulences politiques alors que le pays et le monde entier avaient aussi les yeux rivés sur des événements planétaires comme les Jeux Olympiques d'été ou encore la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On fait le point avec Marie-Christine Bonzon.
Cette crise historique a démarré tout début janvier. Emmanuel Macron, président très impopulaire, doté d'une majorité relative très contestée au Parlement, démissionne sa première ministre. Elle aura 3 successeurs en 11 mois. La crise s'aggrave avec la défaite du parti présidentiel aux élections européennes. Le président dissout l'Assemblée, convoque des législatives qui voient le Rassemblement national devenir le premier parti à l'Assemblée, malgré la victoire d'une alliance de partis de gauche. La crise politique se double d'une crise budgétaire. Une dette record conduit les agences de notation à placer la France sous surveillance. Mais les projecteurs sont aussi pointés sur les Jeux Olympiques d'été, puis sur la réouverture de Notre-Dame de Paris. Face à un régime présidentiel qui évolue vers un régime parlementaire, M. Macron se consacre à l'international. Il utilise ainsi les JO et la cathédrale pour se poser comme un acteur majeur, notamment en étant le premier chef d'État à recevoir le futur président américain Donald Trump. Mais comme en mai, avec les émeutes meurtrières en Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire français de l'Indo-Pacifique qui fait la une en cette fin d'année, l'archipel de Mayotte, ravagé par un cyclone. Marie-Christine Bonzon. Pour Radio Vatican.
Et Mayotte où se trouve depuis ce matin le nouveau Premier ministre français François Bayrou accompagné de 5 ministres. François Bayrou qui a promis de rebâtir l'archipel dévasté. Le sort du 101e département français pourrait faire l'objet d'un projet de loi spécial qui sera présenté lors du Conseil des ministres vendredi. Au moins 31 morts dans des combats dans le nord de la Syrie qui ont opposé des groupes soutenus par la Turquie et des forces pro-kurdes, des FDS, les forces démocratiques syriennes. Le bilan a été donné ce matin par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les combats se sont notamment déroulés dans la région de Manbij, au nord-est du pays. Le nouveau dirigeant syrien Ahmed al-Sharaa a lui affirmé hier que les FDS devraient être intégrés à la future armée syrienne lors d'une interview à la chaîne Al Arabiya. Lors de cet entretien, le nouvel officier de Damas a confié également que l'organisation d'élections dans le pays pourrait prendre pas moins de 4 années. Il a également demandé une levée des sanctions internationales qui pèsent sur son pays. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé demande à Israël la libération du directeur d'un hôpital de la bande de Gaza. Il s'agit de l'hôpital Kamal Adwan, situé dans le nord de l'enclave et totalement hors service en raison des raids de Tsahal. Le docteur Osama Abu Safiya était suspecté par Israël d'être un militant du Hamas. Les hôpitaux de Gaza sont redevenus des champs de bataille et le système de santé gravement menacé. A déploré le directeur général de l'OMS. Après Gaza et Bethléem, le cardinal Pierre Battista Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, a célébré la messe de la Sainte Famille hier en la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Sans confiance, patience et action, nous sommes tous prisonniers de la guerre et de ses conséquences, a souligné le patriarche. Plus d'informations à retrouver sur notre site vaticannews.va. Les hommages se multiplient au lendemain de la mort de l'ancien président américain Jimmy Carter. Le démocrate s'est éteint dans sa propriété de Géorgie hier à l'âge de 100 ans. Il doit sa popularité après son mandat essentiellement et son engagement notamment dans de nombreuses médiations. Il avait notamment reçu le prix Nobel de la paix en 2002. De confession baptiste, Jimmy Carter fut le premier président américain à inviter un pape à la Maison Blanche. C'était Jean-Paul II en 1979. Parmi les messages de condoléances, celui du président chinois Xi Jinping Jinping, qui s'est dit aujourd'hui profondément attristé par la disparition de l'ancien président. Selon le leader chinois, Jimmy Carter a contribué de façon significative à faire avancer les relations entre la Chine et les États-Unis et encourager des échanges amicaux et la coopération entre les deux pays. Fin de citation. Le 9 janvier prochain a été décrété d'ailleurs journée de deuil national aux États-Unis suite à la mort de Jimmy Carter, deuil décrété par Joe Biden. Restons aux États-Unis justement, où cette année aura été aussi riche en événements. On retiendra évidemment l'élection historique de Donald Trump pour un second mandat, de quoi plomber l'héritage de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. À New York, Loïc Loury.
Le véritable héritage de Joe Biden demeurera le second mandat de Donald Trump. Le constat est implacable, signé du New Yorker, au lendemain de la défaite de Kamala Harris, début novembre, face au milliardaire. 4 ans après le début de sa présidence, l'actuel locataire du bureau ovale a pourtant fait bien plus pour son pays que ne le prédisaient ses détracteurs. Une gigantesque loi infrastructure et une autre en faveur de l'environnement, malgré un congrès divisé, il restera comme l'un de nos plus grands présidents, titrait récemment une tribune du journal en ligne The Hill. Reste, c'est incontestable que malgré ses réussites, Joe Biden est aussi celui qui n'aura pas su empêcher le retour de Donald Trump. Élu en faisant la promesse de n'être qu'un dirigeant de transition, il n'aura finalement jeté l'éponge qu'à la dernière minute au profit de Kamala Harris, mais trop tard. Une tâche indélébile sur l'héritage du 46e président des États-Unis. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
La rencontre européenne annuelle de la communauté de Thésée se déroule à Tallinn en Estonie jusqu'à mercredi 1er janvier. L'occasion, comme chaque année, pour des milliers de jeunes européens d'effectuer une nouvelle étape d'un pèlerinage de la confiance et de prier pour la paix, alors que règne la guerre en Ukraine, non loin de l'Estonie. C'est un motif de joie de voir tous ces jeunes pour Mgr François Jourdan. Il est l'évêque de Tallinn.
Pour l'Estonie, il n'y a jamais eu, un pèlerinage ou un rassemblement de jeunes de cette ampleur à Tallinn. Donc, on en a parlé avec les autres églises, surtout avec l'église luthérienne, l'église nationale ici. C'est sûr que pour nous, c'est une grande joie de voir des milliers de jeunes chrétiens affluer ici, parce que l'Estonie, c'est quand même un pays très sécularisé. Nos jeunes sont très souvent aussi bien, catholiques que luthériens, qu'orthodoxes ou d'autres confessions. Ils sont souvent pratiquement le seul chrétien dans leur classe ou dans leur école, ou parfois même dans leur famille. Et donc, c'est sûr que c'est un grand encouragement d'abord pour nos jeunes de voir un peu ces jeunes de tous les pays. Il y a même des jeunes de Hong Kong qui sont venus. Et puis ensuite, c'est sûr que ici, nous vivons un peu au jour le jour au rythme de la guerre en Ukraine, qui a été aussi un thème de prière important ces derniers jours lors des rassemblements de prière du soir. On a beaucoup prié. Il y a eu des témoignages aussi de jeunes Ukrainiens. La situation actuelle fait que le message de Thésée, quand même, est un peu un baume. C'est une société qui vit pas mal dans l'inquiétude. Et je pense que la rencontre de Thésée, d'une part, c'est une marque de solidarité des jeunes, disons, de toute l'Europe, vis-à-vis de ce que nous sommes en train de vivre. Et puis, c'est aussi un message d'optimisme.
Mgr François Jourdan, l'évêque de Tallinn, en Estonie. Je vous en parlais en titre. Comme tous les ans, l'agence Fides vient de publier son rapport sur les missionnaires tués en 2024 dans le monde. 8 prêtres et 5 laïcs ont perdu la vie de manière violente alors qu'ils travaillaient pour diverses œuvres pastoral. On revient avec vous sur ces chiffres, Jean-Benoît Arel.
Oui, Olivier, l'Afrique continue à être le continent le plus meurtrier pour les missionnaires catholiques et agents pastoraux au cours de l'année 2024, avec 6 meurtres sur les 13 recensés par l'agence Fides dans le monde entier. 2 catéchistes au Burkina Faso, tués par des groupes djihadistes, 2 prêtres en Afrique du Sud, tués par balles, mais aussi Edmond Baatimondja, journaliste pour Radio Maria à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, qui enquêtait sur les groupes armés dans la région du Kivu. En Amérique du Sud, ils sont 5 missionnaires à avoir perdu la vie, notons le cas emblématique de Juan Antonio Lopez, défenseur infatigable des droits de l'homme, abattu dans sa voiture le 14 septembre sur le chemin retour de la messe au Honduras. Le pape François avait alors redit sa proximité envers ceux qui travaillent pour le bien commun en réponse aux cris des pauvres et de la terre. Une pensée adressée également pour le père Marcelo au Mexique, défenseur lui des communautés indigènes, tué en octobre après avoir dit sa messe. Enfin, en Europe, 2 prêtres, l'un polonais, l'autre espagnol, ont été assassinés sur leur lieu de mission. Ainsi, en dénombre 13 missionnaires, donc tués cette année, une légère baisse comparée à 2023, même si ces chiffres sont difficiles à établir et sans doute sous-estimés. Au total, Fides estime qu'entre 2000 et 2024, le nombre de missionnaires et d'agents pastoraux tués représente 608 personnes.
Jean-Benoît Harel, et toutes nos informations sur ces missionnaires tués en 2024 sont bien sûr à retrouver sur vaticannews.fr. Et c'est la fin de ce journal. L'information, elle reviendra ce soir à 18h. Excellent après-midi à tous.